al primo, ma in occasione di Natale, si è riuscito talmente che...
Qualche esempio che può essere un personaggio, un po' di notizia, che mi senti molto bello di più per la volta.
La semaine dernière, une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a rencontré tour à tour le président Joseph Kabila, le leader de l'UDPS et président proclamé Félix Tshisekedi, M. Vital Kamerhe, leader de l'UNC, et le représentant de Léon Kengo Andjondo de l'UFC, Union des forces pour le changement. C'était une première étape d'une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'un dialogue des acteurs politiques et de toutes les forces vives de la société en vue de résoudre le malaise socio-politique actuel en RDC. Selon le secrétaire général de la CENCO, les évêques, comme pasteurs vivants aux côtés de la population congolaise, ont relevé qu'il persiste un malaise au niveau social et politique qui engendre une frustration tant chez les peuples que chez les acteurs politiques de l'opposition, comme ceux de la majorité. Cela est une source d'inquiétude et ne pouvait laisser la CENCO indifférente. Que pensez-vous de la démarche de la CENCO? Le professeur Jean-Pierre Bevoix, analyste politique et professeur à l'université de Kinshasa, est notre invité. Christine Poutou et Clovis Louboula réalisent cette émission. Jérôme Scala est à la mise en onde, à la présentation. Marie-Chantal Lumba.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour, professeur Bevoix.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à suivre une première série d'auditeurs qui vont nous dire ce qu'ils pensent de cette démarche de la CENCO. Gabriel est déjà en ligne, il est à Beni. Kairi est à Kalemie. Et aussi, nous allons lire quelques messages de nos auditeurs, comme Jacques Moulakiroi de Beni qui nous écrit ceci. La CENCO vient d'entreprendre une très bonne démarche pour le bonheur des Congolais. Mais je me demande si les opposants voudront voir Kabila dirigé comme président. Pourtant, ils ont contesté farouchement l'organisation de ces élections. Bonjour Gabriel.
Bonjour madame.
Vous êtes également à Beni, nous vous écoutons. Que pensez-vous de la démarche de la CENCO?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je pense avoir réagi d'abord de ces démarches. Je dois réagir un peu à ce que le vice-président de la CENCO a parlé aujourd'hui.
S'il vous plaît, Gabriel, ce n'est pas le sujet du jour. Passez directement à la démarche de la CENCO.
Oui, je pense que c'est ça la conséquence. Hein. Les démarches sont des conséquences, mais la cause, c'est ce que la CENCO a fait le 28 de novembre de l'année passée. Mmh. Je pense d'abord, on doit d'abord évaluer la CENCO. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore avancer. Si dans un mois, il va publier les calendriers des nouvelles échéances électorales. Et avec de tels climats, on va encore continuer pour encore faire des démarches, amener encore des démarches pour qu'on puisse encore négocier. Je pense que c'est d'abord la CENI qui doit maintenant faire l'auto-évaluation et présenter à la population est-ce qu'ils ont très bien travaillé. Est-ce qu'avec de tels climats, nous aurons encore le courage d'aller dans des bureaux de vote pour voter? Je pense que c'est ça le vrai problème. Parce que si aujourd'hui les effets qui sont partis par là, c'est la conséquence de ce que la CENI avait fait. Voilà, je pense. La CENI doit d'abord faire l'évaluation de leur travail, non pas l'évaluation financière, ou publier le 8-8 et le calendrier. Est-ce que la population a confiance à ces dirigeants de la CENI? Si nous ne voulons pas qu'après les élections locales, qu'on puisse encore organiser des tables rondes où on va avoir les évêques, les opposants et les gens de la majorité. Voilà ce que je voulais dire à quelques mots. Mmh. Concernant les démarches des évêques, je salue cela, mais je me demande, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Parce que quand on voit les opposants, prenons l'exemple du président Félix Tshisekedi, a pris déjà une position qui ne va pas travailler avec ce gouvernement légitime. Et les membres du ANP ont pris aussi leur position. Je pense que le vrai problème, c'est de revoir ce que nous avions fait le 28 novembre 2011, à cela pour que tout le monde puisse accepter sa porte et voir l'intérêt général de la population. Je pense que là, là le vrai problème.
Vous avez
voir les opposants et les membres du gouvernement travailler ensemble. On aura toujours un gouvernement là très problématique, je vous assure.
Donc,
c'est pourquoi je vois que bien qu'ils peuvent participer ensemble, on n'aura pas un gouvernement là qui va répondre à la population.
Donc, à votre avis, la démarche serait de prévenir ces malaises. Par exemple, en organisant des élections qui soient prévisibles.
Là, ça fait aujourd'hui 3 mois. Nous continuons toujours à espérer, mais jusque-là, on ne voit rien.
Donc, que la CENI puisse redonner confiance à certaines personnes qui ne croient plus en l'organisation des élections crédibles. Vous avez fait allusion au fait que ces démarches, vous vous doutez même fort que ces démarches puissent aboutir à quelque chose, les démarches de la CENCO. Et ensuite, vous estimez qu'un gouvernement inclusif ne pourrait pas être une solution à cette situation. Merci Gabriel de Béni. Nous allons à Calémi où se trouve Taïri. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Café, bonjour à l'invité aussi.
Nous vous écoutons, quel est votre point de vue?
Ok, mon point de vue est celui-ci, la démarche de la CENCO est louable. Mais je me pose beaucoup de questions. Je suis en train de on va se dénoncer. Puisque je regrette beaucoup d'avoir constaté que le problème qui se pose dans notre pays, la politique, mais aussi l'ensemble de notre.
Saïri, nous avons des problèmes avec votre liaison téléphonique. Nous allons essayer un peu de vous déplacer un petit peu, peut-être qu'il y aura une amélioration quelconque. Saïri, vous vous êtes déplacé un tout petit peu?
Oui, je me déplace.
Oui, allez, alors le temps que je puisse lire 2 messages et puis nous allons revenir à vous. Il y a Alain Kossi Fololo qui nous écrit ceci, tout ça ne va servir à rien, il est déjà trop tard pour dialoguer. Un avis partagé par Samitamba Mutuza depuis Bukavu et Johnny Kayumba depuis San Francisco, c'est aux États-Unis. Il y a Bams Bamasaka de Kinshasa qui nous écrit ceci, c'est une bonne idée, mais qui acceptera de laisser à l'autre diriger? On en a marre de ce genre de situation. Que les politiciens aient pitié de nous, qui se rappellent même un seul instant, qui ne sont pas là seulement pour leur intérêt individuel, mais plutôt pour celui des Congolais. Taïri, j'espère que cette fois la liaison s'est améliorée. Taïri, vous nous écoutez?
Oui, je vous écoute. Bonjour à tous les auditeurs de la radio. Merci, bonjour aussi à l'invité.
Allez-y, vous avez déjà commencé de donner votre position, votre avis par rapport à la démarche de la CENCO. Vous dites que c'est une bonne démarche.
C'est une bonne démarche, mais je regrette pas les malaises qui se trouvent dans la classe politique. Mais je regrette beaucoup. Je souhaiterais que les évêques continuent leur démarche. Le groupe des étrangers ou selon dans notre pays.
En tout cas, c'est assez entrecoupé. C'est assez entrecoupé, mais vous soutenez cette démarche, vous voulez qu'elle puisse s'élargir, si je vous ai bien suivi, pour les au niveau des partenaires internationaux, pour le bien de notre pays. Merci, Kairi. Vous trouvez en ce moment à Calémi. Nous avons Laetitia Minga qui nous écrit ceci. Elle est à Kinshasa. Si l'opposition accepte la démarche préconisée par la CENCO, donc les résultats ont reflété la vérité des urnes. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi négocier? Voilà ce que pense Laetitia Minga. Et là, directement, on peut rappeler, hein, l'objectif, c'est de viser qu'il puisse y avoir un dialogue et décrypter la situation actuelle. Docteur Richard se trouve ici à Kinshasa. Bonjour, docteur.
Bonjour, Marie-Soltan. Bonjour à tout le monde.
Oui, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces démarches?
C'est une bonne démarche parce que les gens doivent se parler et converger leur vue vers l'idéal qui peut amener le Congolais à son bonheur. Si cette démarche ne conduit pas à cela, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que les élections se sont reposées sur la tricherie. Or, la tricherie, c'est le travail de l'éthique négative. Or, Nous voulons un Congo sans tricherie. Sinon, la répercussion sera dans tout ce que le Congolais sera. Nos diplômes seront des diplômes qualifiés de tricherie, nos inventions des inventions de tricherie, les invitations vers les conférences internationales pousseront le Congolais ne pas prendre la parole, parce que s'il prend la parole, on dit, voilà, il amène la gangrène de la tricherie. Voilà les répercussions que nous refusons. Il faut qu'ils se parlent pour poser le diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme c'est la tricherie, je crois, dans un processus. Il faut revoir le processus. Sinon, on ne peut pas fabriquer, par exemple, des ouvrages fiables. Prenons, par exemple, la fabrication des avions. Quand on commence à tricher sur le matériel qui va rentrer dans la composition des éléments du moteur, ces avions-là seront quoi?
Donc, une répercussion, surtout l'image du Congolais, à l'extérieur du pays.
Il faut qu'on puisse faire ressortir l'éthique d'un Congo sans tricherie. Et ça va se répercuter sur tout ce que nous ferons.
Merci, docteur Richard, pour votre merci point de vue. Nous allons redonner la parole à notre invité qui va réagir face aux avis des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Professeur Bebois, vous avez suivi nos auditeurs, ils sont revenus sur l'aboutissement, la finalité de ce dialogue qu'ils préconisent. À votre avis, est-ce que ce dialogue doit nécessairement aboutir à la formation d'un gouvernement inclusif ou carrément c'est un dialogue pour un peu essayer de mettre fin à cette crise, à ce malaise qui est présenté au niveau que ce soit au niveau de la classe politique, même au niveau du social de la population.
Merci beaucoup, Madame Chantal. C'est-à-dire que, personnellement, je situe la démarche des évêques, de la CENCO, au niveau de leur mission, justement, dans la société. Vous savez que il y a la crise politique qui prévaut dans notre pays, où l'opposition et les gens de la majorité ne se parlent pas. Hein? Alors, depuis les élections, vous voyez, nous avons déjà connu quelques semaines hein, qui sont passées. Alors, au Tétine, il n'y a pas la situation qui se décante. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là que les évêques ont pensé essayer de visiter les acteurs principaux, pas sur la scène politique congolaise, pour pouvoir les inviter au dialogue. Donc là, par rapport à leur mission, je crois qu'ils sont dans leur rôle. Parce que, comme ils avaient fait leur déclaration du 12 janvier 2012, qui est connue, où ils ont adressé des messages aux fidèles catholiques, à l'ensemble du peuple congolais. Donc on connaît leur position par rapport aux questions des élections. Mais maintenant, au-delà de cet appel qu'ils ont adressé justement à tous les peuples congolais, les évêques pensent qu'il faut rencontrer des acteurs politiques et inviter les acteurs politiques à prendre des initiatives qui puissent décanter la situation, qui puisse débloquer en quelque sorte la situation politique qui est des crises persistantes, en quelque sorte.
Et à votre avis, par exemple, une rencontre entre le président Kabila et le leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, est-ce que cela serait une image, serait un signal fort pour décrisper cette situation?
Oui, mais madame, vous savez qu'au niveau des acteurs politiques, ils sont condamnés en fait, à donner, n'est-ce pas, des signaux forts pour montrer à tous les Congolais qu'en dépit de la crise qui a secoué le pays, ils sont capables de trouver des solutions crédibles pour débloquer le pays. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas continuellement rester là, en train de se garder comme c'est le cas maintenant. Les acteurs politiques doivent prendre leurs responsabilités. Un pays est géré, donc les hommes politiques doivent gérer la crise. Ils ne doivent pas subir la crise, ils doivent la gérer. Donc l'invitation des évêques, c'est une invitation tout à fait louable, parce que les évêques offrent là aux acteurs politiques l'occasion hein, de pouvoir parler. Je suis sûr que
en dépit du fait qu'on n'a pas les contenus de leur rencontre avec ces différents acteurs politiques, je suis sûr que les évêques sont allés certainement les inviter à mettre un peu de l'eau dans leur vin chacun, pour qu'on regarde l'intérêt général de ce pays et que chacun puisse aller au-delà des intérêts personnels, parce que chaque acteur politique important est en quelque sorte pris en otage aussi par des gens autour de lui qui sont parfois dans des positions assez radicales. Or, vous savez que la situation politique, comme elle se présente là, elle nécessite que chaque acteur politique prenne ses responsabilités et prenne certaines mesures courageuses qu'impose la situation qui nous trouve maintenant.
Donc, quelle qu'en soit l'issue de ce qui peut être dit entre ces deux personnes, le fait de se rencontrer, c'est déjà un signal assez fort, et cela pourrait d'une manière ou d'une autre essayer de décrisper ces situations. Mais revenons à l'avis de notre auditeur, Gabriel de Béni, qui pense qu'il faudrait actuellement, c'est vrai qu'il y a cette situation, mais qu'il faudrait aussi voir dans quelle mesure prévenir de constiper la situation. Donc, par exemple, en essayant de voir dans quelle mesure l'organisation des prochaines élections puisse se faire d'une manière un peu mieux améliorer cette organisation. Qu'en pensez-vous?
Oui, mais c'est-à-dire que c'est comme tous les Congolais. C'est la question que cet auditeur soulève, c'est une question importante. Tout comme les derniers intervenants. Les derniers intervenants aussi posaient les problèmes de dire il faut qu'on regarde la question des tricheries, il faut qu'on revienne sur ces problèmes des élections afin que l'image du Congolais à l'extérieur ne soit pas cette image d'un tricheur. Tout ce que nous faisons, c'est de la tricherie, etc. Je crois que c'est une préoccupation aussi fondamentale. Parce que vous savez, au niveau des États, comme c'est le cas maintenant, il est important quand même que la gouvernance soit un peu la guide, disons, que la gouvernance guide un peu la conduite de tous les acteurs dans l'ensemble. Hein, c'est ça qu'aujourd'hui on insiste un peu partout dans nos pays du tiers-monde, n'est-ce pas? On est venu dans les institutions internationales viennent avec cette question-là de bonne gouvernance, qui est une question fondamentale. Hein, c'est dire que dans notre façon de nous conduire, nous devons quand même intégrer aussi les considérations éthiques. Mais maintenant, si on tient compte de tout ce que ces intervenants sont en train de relever, comment voient-ils la question de notre pays dans le mois qui vient? Parce que si on ne se parle pas, si les acteurs politiques ne se parlent pas, il sera difficile aussi de régler cette question-là qu'ils souhaitent. Donc c'est une question qui peut être abordée par ces acteurs politiques si ils acceptaient de se parler. Entre eux, ils peuvent faire un dialogue franc. Dans ce dialogue-là, ils peuvent évoquer différentes questions, y compris la garantie pour les prochaines élections qui seront organisées. C'est-à-dire chaque acteur qui va participer, chaque parti politique qui va participer aux prochaines élections aura la préoccupation, n'est-ce pas, des garanties, d'avoir des garanties de la part de la CENI que sa participation pourrait déboucher à quelque chose de bien. Et ce compromis-là ne peut sortir que de l'échange entre les responsables. C'est-à-dire que maintenant, c'est une question des autorités de prendre leurs responsabilités en tant qu'acteurs politiques pour assumer la crise et la gérer au lieu de la subir, au lieu de regarder la situation comme telle. C'est-à-dire qu'on peut aussi dire, avec le temps, la situation peut se normaliser. Or, quand on regarde, n'est-ce pas, on a passé déjà quelques mois. Le temps n'a pas nécessairement décanté la situation, mais le temps, en quelque sorte, contribue au pourrissement, parce que, à mon avis, n'est-ce pas, le problème ne semble pas être réglé à fond.
Ce temps permet aussi que des rumeurs folles puissent être diffusées.
Oui, c'est ça. Alors, les gens spéculent, les gens sont là en train de véhiculer des rumeurs. Mais dans un pays comme le nôtre, qui est un pays vaste, avec autant de millions d'habitants, je crois que les acteurs politiques doivent assumer leurs responsabilités, se regarder les yeux dans les yeux, accepter, n'est-ce pas, de mettre de l'eau dans leur vin et de regarder l'intérêt de ce pays pour que le peuple congolais puisse vaquer librement ses occupations.
Merci, professeur. Restez avec nous. Nous allons prendre Franck qui se trouve en Autriche, Thierry à Kalanga, et lire aussi d'autres messages qui nous sont parvenus à travers @radiocapiconnet, aussi ceux qui ont posté leur avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs, bien sûr, la page qui porte le logo de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Franck.
Bonjour Madame Marie Chantal, bonjour au prof, je suis en train de suivre avec intérêt.
Et de l'extérieur du pays, que pensez-vous de cette démarche de la CENCO?
Merci beaucoup pour avoir pensé à soumettre un tel sujet à un échange médiatique. Je crois que nous devons avoir le courage de reconnaître qu'il y a un malaise. Et ce malaise est en train d'engendrer beaucoup de frustration du côté de la population. Même si de part et d'autre, nos dirigeants politiques, que ce soit ceux de la majorité ou de l'opposition, pensent qu'ils sont en train de parler au nom du peuple, ils doivent quand même arriver à placer d'abord l'intérêt du peuple au centre, quoi. Et nous pouvons que moi, personnellement, je trouve que la démarche de nos évêques est correcte et nos efforts justifiables. Donc nous savons comment est l'atmosphère politique qui joue aussi chez nous au Congo. Bon, pas peut-être dans toutes les grandes villes, mais principalement à Kinshasa. Et si vraiment il n'y avait rien, je crois qu'on n'allait pas placer autant de barrières tout autour de la résidence du président de l'UDPS. Bon, ce que je veux dire, c'est que les gens apprennent d'abord à dialoguer. Ils ont été élus pour les peuples. S'il y a des histoires qui ne sont pas en place, ils doivent vraiment se mettre d'abord d'accord autour d'une table et dialoguer. Et l'Église, ceux qui donnent maintenant du courage pour aller voir, soit le président de la République, soit le président de l'Union sacrée, de l'UDPS, c'est juste. Parce que l'Église est en train de se référer au rapport de ses témoins. Donc je crois que ce n'est pas quelque chose, ils ne le font pas par hasard. Mais les évêques ne peuvent pas faire quelque chose par hasard s'ils ne savent pas qu'il y a vraiment un grand danger. Et je crois que c'est à nos politiciens de savoir aussi récupérer la situation, mais pas être déjà franchi, qu'ils se donnent du courage pour se dire des histoires en face.
Merci beaucoup, Franck. Vous êtes en Autriche. Thierry à Kalanga, bonjour.
Bonjour, maman.
Oui, Thierry, quel est votre point de vue?
Oui, pas bon, c'est dans le sens que de mes prédécesseurs, mais je vais montrer comment je suis un peu député. Parce que la classe politique congolaise, au lieu de dialoguer, le dialogue, c'est un bon moyen. Parce que la conscience, parce qu'il y a des dialogues qui résolvent les problèmes, quel que soit le conflit, tout le monde passera par le dialogue. Mais ce que je vois dans nos autorités politiques, et ils ont chacun dans sa position exclu les autres. Ce qui est un peu bizarre. Nous pouvons nous souvenir que, quand je t'ai dit, à l'époque de Mobutu, était allé voir Mobutu à Badélite. Ils ont dialogué. Au moment encore, je suis allé en France voir Mobutu et dialoguer. Voilà le dialogue, les deux. Nous pouvons qu'on nous rappelait pour la Saint-City. Tout le monde était là, c'était pour le dialogue. Quand le dialogue était passé par la cour de cascade, c'est qu'il avait fait appel encore aux Congolais de reprendre le dialogue. Voilà qui est un homme père pour la population et le peuple congolais. Si le président était ingrat, Mobutu lui avait proposé, en 1990, de faire le Congo, de faire partie politique, de faire et du DPS. Pourquoi je l'ai déjà récusé?
Donc, à votre avis, Thierry, tu dois passer.
Je ne peux pas que les conseillers soient absolument des insultes.
S'il vous plaît, Thierry.
Voilà ma position que je vais montrer.
Donc, à votre avis, il faut passer par le dialogue.
Ouais, ça, c'est des échecs. Ce ne sont pas n'importe quoi. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des grandes personnes.
au Congo, tu vois qu'il y a une malaise.
Oui, merci beaucoup Thierry de Kalanga. Pour vous, il faut passer par le dialogue. Nous avons Johnny Kayumba qui nous écrit ceci. Le président Kabila vient de se choisir un informateur qui va ressortir une majorité au sein du Parlement pour nommer un premier ministre. S'il y a dialogue, c'est-à-dire que l'opposition devra prendre une place de choix dans le futur gouvernement. Et pourtant, moi je pense que M. Tshisekedi ne pourra pas se contenter d'un poste ministériel parce qu'il ne pourra pas non plus être premier ministre. Donc, s'il y a dialogue, le poste qui convient, c'est la présidence du Sénat pour M. Tshisekedi. Ça, c'est ce que pense Kayumba, le scénario qu'il propose, qu'il suggère. Et nous avons aussi Rodrigue Kalumendo de Boussembo. La démarche de la CENCO est bonne, car à mon avis, il n'y aura pas de solution sans un dialogue sérieux entre les acteurs politiques congolais. Ces derniers doivent s'écouter et se supporter afin de trouver une solution et lever cette crise post-électorale. Trésor Adronga nous écrit ceci. C'est une bonne démarche de la part de la CENCO, car dit-on, les linges sales se lavent en famille, avis partagé par Kambale Enoshi de Butembo. Il y a aussi Gustave Mozoa. Je félicite la CENCO pour cette initiative qui va de l'intérêt de la nation congolaise. Le peuple congolais n'a plus besoin des troubles qui font sombrer notre pays. Les politiques doivent comprendre que dans la vie, il n'y a pas que la réussite, il y a aussi l'échec, que les candidats malheureux prennent leur mal en patience. Bientôt, c'est 2016. Bonjour, Lossé. Lossé, vous êtes à Salémi, bonjour.
Bonjour.
Oui, nous vous écoutons, quel est votre avis?
Ok, d'abord, merci. Et au niveau de la production, moi je suis d'accord, je suis pour donc la démarche de la CENCO. Les gens doivent se mettre autour d'une table. Donc, la concertation, le dialogue est indispensable et l'unique voie pour amener le pays à quitter dans la situation qui se pose. Ok, les gens ont été difficiles et ils ont compris une chose. Ils sont là comme acteurs. Et ils agissent au point de vue de toute la population de la RDC. C'est-à-dire que ces gens-là, ils doivent convaincre le peuple à temps de solutions immédiates.
Merci Lossé de Kalemi. Vous êtes aussi pour le dialogue. Martin de Kikwit, bonjour. Oui, bonjour Martin.
Oui, bonjour Marie-Chantal Mouma, bonjour.
Et nous vous écoutons, quel est votre avis?
Oui, mon avis est celui-ci. C'est bien le dialogue là, c'est bien. Mais le problème c'est quoi? Vous savez, dans notre pays, lorsqu'il s'agit d'un problème du pouvoir, les gens suivent toujours leurs intérêts. Maintenant, la CENCO a ses intérêts aujourd'hui. Alors, où est l'intérêt maintenant de la population? La population.
Martin, s'il vous plaît, quel est votre point de vue? Que pensez-vous de cette démarche?
Oui, j'ai dit que le démarche, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est les intérêts des pouvoirs en place et de la CENCO.
Oui.
La CENCO a son intérêt maintenant.
Oui, à votre avis, s'il vous plaît, Martin, le débat se situe dans le fait qu'il y a une situation post-électorale en RDC. Vous êtes citoyen congolais, vous êtes à Kikwit, vous connaissez bien ce qui se passe actuellement, soit que pour vous il y a une crise, soit qu'il n'y en a pas, mais que pensez-vous du fait qu'aujourd'hui la CENCO voudrait, d'une manière ou d'une autre, écouter les avis des partis qui se regardent un peu en chaîne de faïence? Que pensez-vous de cela? Faut-il rester là à regarder comment ça évolue? Faut-il laisser le temps au temps ou faut-il rapprocher ces personnes? Vous, Martin, en tant que Congolais, que pensez-vous de cette situation?
Oui, je pense que les démarches, c'est bien parce que le dialogue, c'est juste une voie à suivre. Ce n'est pas mauvais. Et vous savez bien que nous sommes devant une contrainte juste de la communauté internationale, de tout ce que vous connaissez quand même. Pour moi, je trouve que le dialogue, c'est bien. mais le problème, c'est la population. Lorsqu'ils vont dans ce dialogue, il faut que chacun se retrouve. Il faut que chacun se retrouve parce que aujourd'hui, nous voyons le pouvoir en place déstabilise tout.
Et dans ces concertations, est-ce que vous pensez que la population peut se faire représenter par qui?
Bon, la population,
parce qu'on va pas en tout cas.
La société civile peut représenter la population pour moi.
Donc dans toutes ces démarches, il faudrait que la SENCO puisse aussi rencontrer les associations et ces associations qui font partie de la société civile. Merci beaucoup Martin de Kikwit pour votre point de vue, et comme l'a même souligné le secrétaire général de la SENCO, cette première démarche de rencontrer les leaders des partis politiques, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une première étape, et qu'il y aura bien sûr d'autres rencontres, et nous espérons, comme vous l'avez souligné Martin, que aussi la société civile sera contactée. N'oublions pas que les confessions religieuses font partie également de la société civile. Bonjour Géry. Géry, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Nous vous écoutons, vous êtes à Bandundu, il y a le bruit d'un bébé à côté de vous. C'est assez touchant, hein, parce que les enfants aussi ont droit à la parole sur Radio Capi. Mais tout ce qui... S'il vous plaît, Géry, le temps que vous puissiez remettre ce bébé qui voudrait aussi avoir de la voix sur Radio Café, je lis quelques messages. Le temps que vous puissiez donner le bébé à sa maman ou quelqu'un d'autre pour que vous puissiez intervenir sans qu'il y ait ce bruit. Donc, il y a Nelson Pangakolo de Ouvira qui nous écrit ceci. C'est une bonne initiative de la part de la SENCO. La RDC n'est pas un champ de bataille entre Congolais. Je pense que l'actuel président de la République devrait accepter de travailler avec les autres, car le peuple ne veut que la paix. Il y a aussi Joseph Apollo de Bukavu. Je salue cette démarche de la SENCO. La SENCO a déjà plus d'une fois fait preuve de sa vision de rechercher la paix, la concorde nationale, du dialogue et de l'entente entre les politiques pour le développement de notre pays. Tout ce fait tourne toujours autour de l'intérêt supérieur de la nation congolaise en vue de sortir le pays de sa torpeur. Seulement, comme les évêques de la SENCO ont déjà rencontré chacun de ces candidats individuellement, il serait aussi mieux qu'ils réunissent, qu'ils arrivent à pouvoir les réunir et les mettre tous autour d'une table pour dialoguer et trouver un compromis sur la levée de la crise post-électorale. Avis partagé par Félix Bakajika Panou qui se trouve ici à Kinshasa. Nous revenons à vous, Géry de Bandundu. Nous espérons que l'enfant s'est calmé et que vous pouvez maintenant donner votre point de vue concernant le sujet du jour. Que pensez-vous de la démarche de la SENCO?
Oui, madame. Bon, j'ai salué d'abord la SENCO parce que vous savez, si des hommes ou des individus se battent, un devient pour vous mettre en communion, c'est une bonne idée. Mais les choses qui se passent dans notre pays, c'est quoi? Les choses que nous déplorons, c'est quoi? Donc, on a mis en communion ou on a dialogué avec les candidats en question. Mais vous allez écouter quelque part, ou bien quelques réactions des individus. Un individu qui parle, ses réactions, c'est purement mauvais. Quant à moi, il y a des articles passés, cela, mais c'est une bonne idée. Nous félicitons la SENCO quand même, mais je ne pense pas que dans notre pays, ça doit bien évoluer. Parce que comme on a dit, un autre éditeur, c'est déjà tard. Comme c'est déjà tard, il fait de leur façon qu'il veut. Mon point de vue est seulement ça.
Il y a eu des réactions et d'autres sont négatives selon vous. Mais n'oublions pas qu'on doit respecter les opinions de chacun. C'est ça même la tolérance qui est l'un des piliers de la démocratie. Merci beaucoup, Géry. Pour vous, ces démarches interviennent un peu tard. Peut-être que si c'était un peu plus tôt, vous estimez qu'il y aurait eu d'autres solutions. Nous prenons Sam Issouvambou-Jumaï. Bonjour, Sam.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal Lombo.
Et nous vous écoutons, Sam.
Je demande à la SENCO. La SENCO, dépendant de son cardinal, Laurent Mosengo, au mois de novembre, il avait dit
mais les résultats publiés par la CENI ne sont pas comparables ou vérifiables ou conformes ni à la vérité ni à la justice. C'est dans ces paroles-là que nous avons retenu et que nous faisons les recours. Nous savons véritablement tout le monde le connaît, et le connaît. Même pas tout à l'heure, on dit que les résultats ou les élections ne s'étaient pas bien déroulés. Nous savons tout ça. Et nous savons qui a été élu à la présidence, mais qui devrait être élu à la législature. Mais la Comco commence aujourd'hui à faire les dommages. Allez, je vais dire aussi, allez, je suis ce que je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont retenir là? Et après, quand il est en train de former son gouvernement, peut-être, le gouvernement s'est fait.
À partir de Mbujimaï, à votre avis, la démarche intervient un peu tard, c'est qu'on peut aller que ça se passe un peu plus tôt. Nous avons Zachary Mouroula de Bukavu qui nous écrit ceci, la démarche de la CENCO est louable et pacificatrice pour vous, qu'est-ce pourvu qu'elle se fasse en toute impartialité ou neutralité qui facilitera la médiation. Quant à l'opposition, il faut qu'elle arrive à accepter sportivement la défaite si réellement c'est le bien-être du peuple qu'elle recherche. C'est le moment de le prouver par le travail et non par les disputes du pouvoir. Il ne faut pas nécessairement être président de la République pour servir la nation. Quant à la majorité, il faut qu'elle prenne conscience de la manière dont elle a acquis le pouvoir et donc qu'elle soit prête au partage prochainement du pouvoir. Voilà ce que nous a écrit Zachary Mouroula.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre invité, professeur Bois, analyste politique, professeur à l'université de Kinshasa. Dites-nous, vous avez encore suivi ces auditeurs, et à votre avis, est-ce que nécessairement le dialogue doit se solder sur le partage du pouvoir?
Bon, je ne sais pas si ce dialogue va nécessairement se solder sur le partage du pouvoir. Ça dépend un peu de comment les différents acteurs politiques voient la question. Mais j'aimerais quand même rappeler que la CENCO ne se contredit pas. Parce que parmi les auditeurs, il y en a qui disent la CENCO avait dit ceci, maintenant il demande du dialogue, etc. Donc il faut déjà rappeler que dans cette déclaration du 12 janvier 2012, la CENCO avait conclu justement, en conclusion, la CENCO disait ceci, je peux citer un peu une citation, hein, comme ça permet un peu aux gens de rester dans l'esprit de cette démarche des évêques. Parce que sinon on a l'impression qu'ils se contredisent. Or, dans la déclaration même, dont il parle là, en conclusion, les évêques disaient ceci, je cite, « Il faut l'amour du pays, la volonté de renoncer à des intérêts égoïstes pour rechercher dans le dialogue les voies pour bâtir la paix en RDC. » Hein? Donc, vous voyez, donc déjà à ce moment-là, il parlait déjà de la paix. Hein? Il parlait de la paix, évidemment, il parlait aussi, il disait, mais la paix que nous voulons est celle qui trouve sa source dans la justice et l'amour de la vérité. Donc, ce sont des éléments qu'ils avaient mis en gras. Donc, c'est pour insister que dès le départ, les évêques préconisaient toujours ces dialogues-là. Et maintenant, ils reviennent encore à charge en rencontrant les hommes politiques pour leur demander de pouvoir se parler. Je crois que comme Congolais, nous avons l'obligation de dialoguer, de nous parler. Hein, parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons des pressions extérieures qui sont faites sur la RDC. Et ces pressions-là trouvent justement la porte parce que au niveau interne, la classe politique n'est pas unie. La classe politique ne s'est pas mise d'accord sur l'essentiel. Et donc, il est important que la classe politique congolaise se mette d'accord sur l'essentiel. Et se mettre d'accord, c'est justement dialoguer.
Et donc, ce dialogue dont il est question, est-ce qu'il va consister dans le partage du pouvoir? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que dans la société, vous avez un groupe qui va gérer les affaires, ce qu'on appelle les gens qui sont au pouvoir. Il y a un groupe qui va faire de l'opposition pour contribuer à l'amélioration de la situation. Ça, ce serait l'idéal, que ceux qui gagnent les élections gèrent les affaires, ceux qui perdent les élections soient en train de faire l'opposition. Maintenant, ce dialogue qu'on est en train de préconiser, c'est parce que les élections ont laissé, n'est-ce pas, le pays dans la crise. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis d'accord à l'issue de ces élections, n'est-ce pas, sur les résultats qui sont sortis de ces élections. C'est pour cette raison-là qu'on parle du dialogue. Si les élections n'avaient pas posé des problèmes, comme en 2006, je crois qu'on ne parlerait pas du dialogue. Après les élections, on verrait les groupes qui a gagné, qui forment son gouvernement, qui commence à gérer. Et donc aujourd'hui, si les évêques préconisent le dialogue, c'est parce qu'ils restent constants. Hein, il voit aussi que au-delà de discours, la réalité c'est que les gens vivent la situation actuelle comme une situation de crise en fait. Hein, c'est pour cette raison-là qu'on dit qu'on ne peut pas fonctionner dans les mensonges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Autant que les hommes politiques se parlent, ils vident leur cœur, et que le pays puisse être engagé, n'est-ce pas, dans un élan sincère vers l'avenir.
Il y a un auditeur qui a émis cette crainte, la cohabitation, si par hasard on arrivait à avoir un gouvernement où il y a toutes ces tendances, est-ce que cette cohabitation-là, est-ce qu'elle ne peut pas tendre vers un monopartisme déguisé?
Oui, disons la cohabitation, c'est la situation que nous avons connue, hein, donc de 2006 et jusqu'à présent, on a eu un gouvernement de cohabitation avec plusieurs partis politiques, n'est-ce pas, qui étaient dans ces gouvernements, on a vu ce que ça a donné. Et donc la cohabitation n'est pas nécessairement dire que ce sera travailler avec l'opposition. Je crois que lorsque les évêques préconisent le dialogue, ils ne suggèrent pas qu'à travers ce dialogue, il y aura nécessairement le partage du pouvoir. Ça veut dire simplement que l'opposition et le pouvoir vont parler, hein, vont se regarder les yeux dans les yeux, ils vont trouver un compromis pour l'avenir. Ça veut dire que les prochaines échéances électorales, hein, notamment les élections provinciales et les élections sénatoriales et pour les élections des gouverneurs et même les élections locales, pour toutes ces élections-là, qui seront encore une fois organisées par la CENI, il est important que les concernés, les partis politiques, l'opposition aussi, et les gens du pouvoir acceptent que la CENI soit l'arbitre. Parce que si une partie n'accepte pas l'arbitre, l'arbitre peut toujours s'imposer que c'est moi l'arbitre, mais son travail n'est pas accepté, ça aussi c'est une crise. Donc il est important que dans les pays, lorsque nous parlons de la crise, on ne voit pas nécessairement la question de la gouvernance du pays, c'est-à-dire la formation du gouvernement. On voit l'ensemble de la situation. Parce que le pays ne s'arrête pas avec les élections législatives et l'élection présidentielle. Il y a les élections provinciales qui doivent donner lieu à des gouverneurs, qui doivent gérer les provinces, qui doivent donner lieu à la désignation des sénateurs. Donc c'est important aussi que cela ne puisse pas entraîner encore le pays dans les désordres comme ça a été le cas avec ces élections. Donc le dialogue, à mon avis, c'est quelque chose qui va amener toutes ces questions sur la table pour éviter justement d'avoir la contestation qu'on a eue. Le premier intervenant qui voulait déjà s'attaquer au fait que le vice-président de la CENI a annoncé quelque chose, hein, par rapport aux prochaines élections. Alors il disait non, avant que la CENI ne parle des élections, la CENI doit d'abord faire l'évaluation de son travail. Alors vous voyez, toutes ces questions-là, ce sont les questions qui nécessitent que les hommes politiques se parlent franchement, parce que ce sont les hommes politiques qui gèrent les pays, qui assument les destins de ces pays, qui assument leurs responsabilités pour l'avenir du pays. Donc il n'est pas bon que ce soit des rumeurs, qui sont véhiculés à travers le pays. Il n'est pas bon que ce soit n'importe qui vienne envenimer la situation. Dans notre pays, on a besoin de la paix. C'est comme tous les intervenants là qui parlent. Ils insistent sur la nécessité de la paix. La paix, c'est dire aussi que nous voulons vivre dans un pays où nous parlons tous. Il n'est pas normal qu'ici, dans un pays, il y ait des chefs de partis politiques qui sont bloqués chez eux, il y ait des députés élus qui ne participent pas au Parlement parce qu'ils boycottent. Tout ça, ça montre qu'il y a une situation qui nécessite que quelque part, n'est-ce pas, on puisse parler.
Oui,
madame.
Oui, parce que nous voulons écouter cette dernière série d'auditeurs, revenir à vous pour un commentaire aussi, une conclusion. Nous avons Eric qui se trouve à Goma, à Mani, à Bukavu. Nous allons lire aussi ces quelques messages. Nous allons commencer par Eric de Goma. Bonjour, Eric.
Bonjour, madame.
Oui, Eric, votre point de vue.
Bonjour. Moi, je pense que le gens qui a préconisé la séquence, c'est quelque chose vraiment salutaire. Les galops pour ce Congo ne sont pas les mains inopportunes comme l'ont suggéré certaines de nos experts qui ont intervenu sur l'antenne. Parce qu'il ne faisait pas longtemps qu'il y a des institutions de bref de beaucoup de ici, on parle de la Banque mondiale qui s'est prononcée quant à ce qui concerne de la manière dont les élections sont déroulées au Congo, qu'elle va. Ainsi, momentanément, suspendre sa contribution au budget congolais. Moi, je crois que si le président a réellement sillé le développement de ce pays, je pense qu'il faut réellement parler avec tout le monde. Ça explique aux États-Unis. L'exemple est très éloquent, celui de Barack Obama avec la chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton. Ainsi, vous rappelez, madame, son rival, mais. Barack Obama a comprené que c'était une urgence pour développer la fédération américaine.
S'il vous plaît, Eric, ce qui s'est passé c'est au sein d'un parti politique, hein, c'est ça fait différent. Hein. Au sein d'un parti politique, ils se choisissent au niveau de... Il y a des élections au sein du parti politique et non des élections qui intéressent toute la nation. Il n'y a que les militants de ce parti politique qui ont choisi entre Barack Obama et Hillary Clinton. Nous savons ce qui s'est passé à la suite de l'histoire. Mais revenons à ce dialogue. Vous dites que c'est important qu'il y ait un dialogue et à votre avis, est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour le temps que je puisse aussi donner la parole à Manieri?
Non, je vois que c'est très important parce que les candidats, lorsqu'ils se sont présentés, quand ils voulaient assister qu'ils soient élus comme président de la République, beaucoup ont présenté un projet qui est quand même un projet à fonctionner pour le développement de ce pays. Le président de la République, c'est mieux, tout le monde est congolais, tu prends avec tout le monde pour mieux avancer ce pays.
Merci beaucoup, Eric de Goma. Amani, vous êtes à vous, bonjour. Bonjour Amani.
Oui, bonjour.
Amani, essayez d'éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous. Le temps que j'ai ces deux messages et puis nous allons revenir à vous. Il y a Jean Tarsis Congolo à Goma qui nous écrit ceci. Pourquoi la CENCO n'avait-elle pas suggéré ce dialogue depuis longtemps? C'est une bonne démarche pour la résolution de la crise politique actuelle. Amani Taïra de Bukavu, je salue la démarche de la CENCO, cependant je doute fort de l'issue lorsqu'on s'en tient à la position de l'UDPS. Karine, capitaine de Butembo, la CENCO vient de réaliser ce qu'elle voulait faire pour, elle pense que c'est pour tromper les Congolais avec ses nombreuses déclarations de réorganisation des élections. À mon avis, Karim, la CENCO, dans ses recommandations, parle toujours de dialogue. Je suis content parce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle est réellement et sa responsabilité dans la crise post-électorale. C'est ce qu'estime CENCO, plutôt Karim, capitaine de Bukavu. Nous prenons Gauthier de Kananga, à manifester en ligne. Gauthier, bonjour. Bonjour, Gauthier.
Bonjour, Marie-Chantal.
Nous vous écoutons. Oui, quel est votre avis, Gauthier, concernant ces démarches?
De toute façon, j'ai salué la démarche de l'évêque. En tout cas, c'est une voie normale. par laquelle nous pouvons démissionner à une meilleure solution. Mm-hmm. Mais de toutes les façons, nous avons déjà suivi les positions des uns et des autres pour les cas adverses. La majorité revendique la victoire. Mais sur le plan réalité, madame, nous ne pouvons pas voter les choix qui nécessitent de contribuer pour notre compétition.
Parce que vous parlez d'une manière générale, nous savons qu'il y a eu ces élections. D'une manière générale, lorsque vous dites que vous n'avez pas voté, c'est un peu global. Donc, parlons de vous et de la situation actuelle.
Ça va, Marie. Alors, on voit comme proposition, quand ils sont pour dialoguer, je pense que le peuple d'abord doit être au centre de cette discussion. Mm-hmm. Et comme proposition, alors, je m'avais dit, je propose moi un gouvernement de transition qui peut débouter alors aux bonnes élections. Parce que ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'élection dans ce pays.
Merci, Gauthier, de votre point de vue. Nous redonnons la parole à notre invité. On a des problèmes avec sa liaison téléphonique, mais on ne pourra plus avoir Amani parce que ça a été assez difficile pour le recontacter. Apparemment, on a eu des problèmes avec sa ligne. Prochainement, il pourra intervenir et nous dire ce qu'il pense.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre invité. Vous avez suivi cette dernière série d'auditeurs. D'une manière générale, les avis, ils pensent que c'est bon qu'il y ait un dialogue. Mais bien sûr qu'il y a eu d'autres auditeurs qui estiment que c'est un peu trop tard ou pas du tout, vu les résultats ou ceux qui estiment que ce dialogue puisse donner comme fruit. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit, mais aussi une conclusion pour cette émission?
Oui, merci beaucoup, madame. Moi, je pense que les auditeurs, ce qu'ils reflètent là, c'est qu'en gros, ils saluent, ils encouragent la position de la CENCO, le dialogue. Hein? Même ceux qui disent c'est trop tard, en même temps, ils disent on n'a pas voté ces gens-là, etc. Vous voyez, c'est toutes ces attitudes-là qui cachent le malaise qu'il faut parfois s'y vider. Donc, lorsque les évêques préconisent la CENCO, c'est pour éviter hein, ces genres de discours. Donc, vous avez des dirigeants, vous êtes en train de les dénigrer, on n'a pas voté ces gens. Donc, vous faites semblant et en même temps, vous êtes en train de les contester. Un pouvoir ne peut pas fonctionner dans la contestation comme ça. À un moment, il est important qu'on dialogue et que les Congolais comprennent que les acteurs politiques se sont mis d'accord. Il n'y a plus des acteurs qui dérangent tout le temps, qui demandent la chute de ceci, qui provoquent, qui déstabilisent en fait le système. Et donc dans ce sens-là, moi personnellement, je crois que c'est une bonne chose, mais c'est aux hommes politiques de voir de quoi ils vont parler et comment ils vont le faire. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre que ce soit des initiatives qui viennent de l'extérieur. Et comme ici c'est quand même au niveau interne, la CENCO, c'est l'Église catholique, c'est un acteur important de la société civile. Le pays n'appartient pas qu'aux acteurs politiques, ça appartient à tous les Congolais, y compris la société civile, où il y a aussi cette Église catholique qui est un acteur important. Donc, qui suggère ça, c'est une bonne chose. C'est aux hommes politiques de prendre ou de ne pas prendre. Ils peuvent aussi préférer continuer à se battre comme ils aiment bien le faire, mais les Congolais n'aiment pas que la guerre soit là tout le temps. Les gens veulent vivre dans la paix, alors les hommes politiques ont intérêt à se parler, au lieu d'amener tout le temps les chars dans la ville, les gens veulent vivre en paix. Alors, les citoyens, ils préfèrent que les hommes politiques les gèrent, se parlent entre eux, trouvent des solutions, envoient les signaux, montrant qu'entre eux ils sont d'accord, et qu'ils prouvent que la politique, c'est pas, ils sont pas ennemis, ils sont adversaires comme ils aiment bien les présenter toujours, mais quand il y a la crise, qu'ils prouvent qu'eux, ils sont pas des ennemis, ils sont des acteurs, et qu'ils donnent de bons exemples pour la génération future, et que les jeunes voient que les grands, hein, ils sont toujours capables de prendre leurs responsabilités, de trouver des solutions, même lorsqu'il y a des problèmes sérieux. Mmh. Et donc ces problèmes, bien qu'ils soient politiques, que les hommes politiques s'assument hein, et qu'ils prennent leur courage à main, qu'ils posent des actes qui puissent aider le pays à aller de l'avant. Les gens préfèrent vivre dans la paix, ils n'aiment pas qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des problèmes tout le temps.
Le système politique a besoin d'être consolidé et nous devons avancer avec les processus démocratiques dans notre pays. Donc voilà un peu ma conclusion.
Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Bouba. Je rappelle que vous êtes analyste politique et aussi professeur à l'université de Kinshasa. Et bien sûr, vous avez essayé de commenter, aussi donner votre point de vue sur la question concernant la démarche de la CENCO pour arriver à un dialogue politique. Nous disons également merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis, que ce soit en FM ou connectés sur www.radiocatholique.net. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs et nous parlerons du scoutisme en marge de la journée africaine du scoutisme célébrée chaque 13 mars. Que représente pour vous ce mouvement des jeunes en RDC? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocatholique.net ou encore en postant votre avis sur la page Facebook de Parole aux auditeurs qui porte le logo de Radio Capi. Merci à Christine Foutou, à Clovis Bouboula et à Gisèle Siala qui ont réalisé cette émission. Restez branchés sur la chaîne de la paix pour la suite de ces programmes.